Vous êtes fatigué?
Non.
Vous voulez dormir? Non. Vous avez bien dormi? Oui. Écoutez, depuis quelques jours, j'ai un nouveau titre. Nous avons une fille, Christine, qui habite dans un petit pays, très musulman, pays 5500 km d'ici, c'est le petit pays qui s'appelle Oman. Petit, 4-5 fois plus grand que la Belgique quand même. Elle est professeure d'anglais et elle m'a dit que dans sa classe, il y a un homme qui est marié, qui a deux petits garçons, un garçon de 2 ans, un garçon de 4 ans, et son fils de 4 ans, il a une mauvaise maladie, leucémie, cancer du sang. Et elle a dit, elle est professeure, elle a 55 ans, Christine a dit, je prierai pour vous. Et je demande à mes parents aussi. Mais elle dit, il ne va pas comprendre cet homme que mon père est pasteur. Alors j'ai dit, il est imam. Donc vous avez devant vous un imam protestant. Nouveau titre. Elle dit, ma maman, elle va aussi prier pour ce petit cas. Comment, Jacques? Je n'ai jamais pensé à ça. Tu es très perspicace. Et ma femme est merspicace. Tu es perspicace, Jacques. Bien, alors ce matin, j'aimerais vous donner un message que je n'ai jamais donné avant. Je pense que c'est un message très, très important. Pour vous donner une stabilité dans votre vie, dans vous donner la paix dans votre vie, la joie dans votre vie, quelque chose de nouveau, mais il faut bien écouter. À la fin du message, alors pour ceux qui veulent avoir les notes, je suis prêt à les envoyer, aussi à ceux qui ne sont pas là. Ceux qui ne veulent pas avoir mes notes, vous pouvez lever la main, je ne les envoie pas. Sentez-vous libre. Alors, le titre de mon message, c'est « La volonté de Dieu par rapport à notre esprit ». C'est un message avec un sujet complexe, pas trop compliqué, mais il faut bien écouter. « La volonté de Dieu par rapport à notre esprit ». Comme introduction, comment est-ce que notre Dieu? Moi, je trouve que c'est assez compliqué. J'ai enseigné comme professeur, j'ai enseigné à l'école publique. Mais pour le comprendre, nul. Très difficile de comprendre que Dieu est une trinité. Je l'accepte par la foi, oui, je l'accepte. C'est un mystère, mais nous savons que notre Dieu, il y a trois personnes donc, en un, une personne en trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, vous êtes d'accord jusque maintenant? Ce qui m'a aidé toujours, que Dieu le Père est au-dessus de nous. Il a envoyé son Fils qui est mort pour nous. Et par le Saint-Esprit, il est en nous. Dieu le Père au-dessus de nous, le Fils qui est mort pour nous, le Saint-Esprit qui est en nous. Ça nous aide un petit peu. C'est un mystère quand même. C'est un mystère, non? Moi, je trouve. Dieu nous a créés aussi, il y a trois parties. Nous sommes des êtres tripartites. Dieu nous a créés esprit, âme, corps. Dans le monde, ce qui compte, c'est le corps. Mais nous avons un esprit, une âme et un corps. Nous sommes des êtres spirituels avec une âme et nous vivons dans un corps. C'est pour cela que je suis visible devant vous. Mais mon être n'est pas un être physique, je suis un être spirituel avec une âme qui vit dans un corps. Très important ça. On trouve ça, cette pensée, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ces trois composants. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit, âme et corps, dans cet ordre. pour ce qui concerne notre corps, ça c'est le plus important dans le monde. C'est manger, c'est boire, c'est son vêtement, c'est la fête pour manger et tout le reste. Mais on ne pense pas à son âme et on ne pense pas beaucoup à son esprit. Pour mieux comprendre cela, que Dieu nous a créé esprit, âme et corps, il y a quelque temps déjà, et j'en ai parlé une fois ici, mais il y a longtemps, peut-être ceux qui étaient là l'ont oublié, Dieu m'a donné une image d'une voiture. Alors, pour la voiture, il y a la carrosserie, et la carrosserie parle du corps, visible, l'extérieur. On regarde la couleur quand on achète une voiture, on regarde un petit peu la forme. Ça, c'est la carrosserie, c'est l'extérieur, c'est le corps. L'image de notre âme, c'est plutôt à l'intérieur. On regarde la banquette, le volant et tout le reste. Ça, c'est une image de l'âme. Vous pouvez avoir une belle voiture à l'extérieur et siège, tout est bon. Mais ce qui compte le plus dans ce sens, pour les hommes comme pour les femmes, c'est le côté invisible, c'est le moteur. Le moteur, c'est l'image de l'esprit. Vous pouvez avoir une voiture avec un moteur merveilleux, mais s'il n'y a pas l'essence dedans, ça ne va pas rouler. Et l'essence, pour moi, c'est l'image du Saint-Esprit. On a besoin de, pour rouler, on a besoin du Saint-Esprit. Est-ce que votre voiture va rouler maintenant? Non, on a besoin d'une clé. Et la clé, c'est l'image de la foi. Seulement, la voiture ne va pas encore rouler, même si vous avez la clé. Il faut le tourner. Il faut mettre sa foi en pratique. Après, ça va rouler pour la première fois. Et ça s'appelle comment? La conversion. Donc, voiture extérieure, carrosserie, intérieur, moteur, essence, clé, tournée, on va rouler maintenant. Pour ceux qui sont devenus chrétiens, ils ont tourné la clé. Dites, j'ai pensé à ça, il y a des choses dans notre vie, on l'emploie tous les jours, mais on ne comprend pas comment ça marche. Mystère. Je regarde de temps en temps le téléviseur, mais je ne comprends rien comment ça marche. On a acheté un frigo il y a quelques années, après un an, deux ans, ça ne marche plus, il y a quelqu'un qui est venu qui a changé la carte. Parce qu'il y avait quelque chose qui... C'est complexe quand j'ai regardé dedans. Même un frigo. On l'emploie tous les jours, mais on n'a pas besoin de le comprendre. Ne demande pas de m'expliquer comment une voiture roule. C'est assez complexe, mais on peut l'employer. L'ordinateur, nous avons tous pratiquement un ordinateur, un téléphone. Comment ça marche? Complexe. Pour moi, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de choses dans la Bible, pour être honnête, mais je trouve que c'est assez complexe et compliqué. Mystère, mystère, mystère. C'est pour cela qu'on a besoin de la foi. Parfois, on comprend certaines choses, mais seulement on comprend une petite mesure. Alors ce matin, je vais travailler avec vous un petit peu. Quand est-ce qu'on est vraiment converti? Question importante. Il y a dans le monde chrétien, il y a deux sortes. Il y a des gens qui sont vraiment chrétiens. Il y a une deuxième catégorie qui pense être chrétien, mais c'est seulement de l'extérieur. Ils sont dans l'église peut-être, ils sont assis, ils chantent des chants, ils connaissent même la Bible peut-être par cœur certains morceaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils n'ont pas encore tourné la clé. Ils sont religieux. Il y a des gens qui sont chrétiens, il y a d'autres qui sont religieux. Les chrétiens, ils sont venus à un certain point dans leur vie qu'ils ont compris, ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Ils ont mis leur confiance en Jésus, et je vais en parler ce matin. Les gens qui sont religieux, ils travaillent pour leur salut. Ils font des œuvres, on ne sait jamais. Et quand on parle avec eux, est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? Tout dépend. Dépend de quoi? Ce qu'ils ont fait. Tandis que pour moi, c'est fait. Jésus l'a fait. Moi, je ne peux rien faire, je peux sûrement accepter. Mystère. Ne me demande pas de l'expliquer. Un homme qui est mort pour tout le monde, mystère. Et pourtant, c'est vrai. Alors, quand est-ce qu'on est vraiment converti? Pour la réponse, nous allons voir d'abord l'action de Dieu en nous. Donc il y a deux petits morceaux. Il y a l'action de Dieu et après cela, on voit l'action de l'homme. Alors il y a un changement en notre esprit qui est scellé par l'Esprit de Dieu. Et là, c'est une chose nouvelle. Depuis quelques mois, nous avons réfléchi beaucoup, mon épouse Beryl et moi-même, sur ça. Je crois qu'il y a des personnes ici qui sont en train d'étudier Éphésiens, un livre merveilleux. Chapitre 1 surtout, en Christ nous avons ceci, en Christ on a cela, en Christ. Il y a Éphésiens chapitre 1 verset 13, si tu veux le mettre Rémi. C'est un verset merveilleux qui montre un certain mystère qui peut vous aider dans votre vie de chaque jour. En lui, en Jésus, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est l'Esprit de Dieu qui a scellé mon esprit. Le mot scellé est employé, le verbe scellé. Alors le mot scellé, le verbe scellé a deux sens. Scellé sont les fermiers qui font ça avec leur brebis, mettent un tampon dessus. Ça veut dire, c'est la brebis qui est à moi, propriétaire. D'accord ? Scellé. Mais, et ça c'est aussi important, le mot scellé a un autre sens aussi, ça veut dire fermé hermétiquement. Et quand ma maman était plus jeune, que 30 ans, 35, 40 ans, je me souviens qu'elle faisait de la confiture dans les bocaux. On chauffait, chauffait, on mettait un gel dessus pour protéger contre les bactéries, contre la saleté. Après, c'était scellé. Et Dieu a fait la même chose à notre conversion quand on a mis notre confiance en Jésus. Dieu a scellé notre esprit. Normalement, le diable ne peut pas nous toucher dans notre esprit. Très important. Au moment qu'on a cru, on est prêt pour aller au ciel parce que notre esprit est scellé. Nous sommes la propriété de Dieu, mais nous sommes aussi scellés. Vous avez compris ce que j'ai dû dire jusque maintenant, parce que ça c'était nouveau pour moi. Notre esprit a été scellé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se lie à notre esprit. On a parlé justement de l'essence et le moteur. Très important. Donc le mot scellé, ou le verbe scellé, veut dire donc protection de Dieu contre tout ce qui est mauvais. Ça veut dire fermer hermétiquement, conserver fermement pour éviter la contamination par le mal, par le péché, par Satan. De ce côté, nous sommes à l'abri. Très important de savoir. À notre conversion, nous sommes justifiés. Ça veut dire, Dieu nous déclare juste si c'est comme on n'avait jamais péché. Parce que Christ a pris nos péchés sur lui. C'est aussi une chose qui nous dépasse. Mystère. Par la justification, notre cœur et notre esprit est purifié. Entre parenthèses, pour ceux qui regardent un petit peu, moi j'ai regardé un petit peu sur Internet, il y a des gens qui croient fermement que le mot esprit et le mot cœur de temps en temps sont interchangeables. Ont le même sens. Par exemple, en Proverbe, Dieu dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes yeux, mes voix. » Quand on donne son cœur à Jésus, parce qu'on dit ça souvent dans les réunions, « Donnez votre cœur à Jésus, par la foi », ça veut dire, votre esprit dans ce sens, Dieu a travaillé notre esprit avec son esprit, et nous sommes à l'abri, parce que nous avons donné notre cœur à Dieu. On ne peut pas le donner deux fois, on le donne une fois. D'accord ? Très important. Mais, après avoir donc été sauvé, parce qu'on a vraiment donné notre cœur à Jésus, notre esprit a été scellé. En ce moment, qu'est-ce qui se passe dans notre âme et notre corps? Ça, c'est la question après. Le nouveau chrétien veut plaire à Dieu. S'il est vraiment converti, il y aura un changement dans son âme et dans son corps. Alors, c'est important de savoir quand même. C'est quoi l'âme? Alors là, j'ai fait des études, une formation en théologie, mais aussi en psychologie. L'âme, c'est le morceau avec nos pensées, nos sentiments et notre volonté. Il y a les trois composants. Pensée, sentiment et aussi notre volonté. Et pour ceux qui sont vraiment convertis, ils commencent à changer les pensées. Ils ne pensent pas plus comme auparavant. Et les sentiments changent aussi. Important. Et en ce moment, le processus de la maturité chrétienne commence. Parfois, on demande aux gens de devenir plus matures en Christ, de faire des progrès, mais ils ne sont pas convertis. Comment faire un progrès spirituel quand on n'est pas vraiment converti? D'abord, l'esprit est touché, et par l'esprit, il y a l'âme qui commence à être touchée aussi. La façon qu'on pense, la façon qu'on ressent des choses, et la volonté. Il y a des choses qu'on veut maintenant faire, ce qu'on ne faisait pas avant. On va prier davantage, pas parce qu'il faut prier, mais parce qu'on veut parler avec Dieu, parce qu'il est devenu notre papa, Abba Père. Et donc, ce processus, la maturité chrétienne, ça s'appelle la sanctification. Très important ce mot. On ne devient pas chrétien parce qu'on entre dans la sanctification, mais la sanctification est un produit de la conversion. Parce qu'on est converti, il y aura la sanctification. On commence à être plus en plus comme Jésus. Compris jusque maintenant, il y a des gens qui font tout pour la sanctification, ils pensent aller au ciel par la sanctification. Mais la sanctification est un résultat et ce n'est pas un moyen pour être sauvé. C'est important de dire ça aussi. Parce que moi je viens de mélange. Mon père était protestant d'origine, ma mère était catholique d'origine. Et quand je me suis converti à 21 ans, j'ai compris que ce n'est pas être catholique ou protestant, mais c'est devenir chrétien tout court, appartient à devenir enfant de Dieu par Jésus. Ne me demande pas si je suis protestant ou catholique, mais j'appartiens à Jésus. Et il y a des gens, donc, tout ce qui est religion et religieux peut être dangereux. Parce que le monde n'a pas besoin de religion, ça ne change pas le cœur. C'est Dieu qui change le cœur par Jésus. Vous êtes d'accord jusque maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas tout cela. Il faut savoir que pour certains, hommes et femmes, le changement, quand on est converti, le changement est rapide. Pour d'autres, ça prend du temps. Mais nous ne devons pas oublier, donc, quand on est devenu chrétien, nous sommes touchés par notre âme, mais aussi notre corps. Et il y a un verset, 1 Corinthiens 6, verset 20, qui dit « Notre corps appartient à Dieu. Notre esprit, notre âme, notre corps. Nous appartenons à Dieu. » Nous ne sommes pas devenus ses esclaves nécessairement, mais il y a un mot doulos qui veut dire esclave, mais nous sommes devenus ses amis. Jésus dit, je vous appelle ami. Et ici donc, j'ai été crucifié. Oh non, ça c'est Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. D'abord, on a 1 Corinthiens 6, verset 20. Non, 1 Corinthiens. Yes, sir. Tu n'es pas ma sœur, tu es mon frère, mais je dis yes, sir. 1 Corinthiens 6, 20. Oui, on est arrivé. Vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes à Dieu. Et ça change tout. Alléluia. Je suis devenu la propriété de Dieu. Il faut savoir, frères et sœurs, important que je dis ça. Après notre conversion, est-ce qu'on peut pécher? Oui. On a la possibilité. Après notre conversion, nous pouvons toujours pécher avec notre âme et avec notre corps. Mais on ne perd pas le salut et Dieu nous aimera toujours inconditionnellement. Je l'explique. Important. On ne perd pas le salut quand notre esprit est scellé et prêt pour aller au ciel. Le moment quand tu as cru en Jésus, tu es prêt pour aller au ciel. Et rien qui peut changer cela. Rien, ni personne, Anne, rien, ni personne, ne peut nous couper de l'amour de Dieu pour nous selon Romains 8, 39. Maintenant, on arrive. Merci, mon frère, tu as lu ce matin. C'est le dernier verset, le chapitre 8, Romains. C'est un chapitre merveilleux, verset 39. « Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien, rien, rien. R-I-E-N. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. C'est merveilleux ce verset. C'est catégorique. C'est bien qu'on le sache. Combien de gens sont venus chez nous à la maison, chrétiens de l'Église, et je pose la question, est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? Tout dépend. Ça dépend de quoi? Et c'est toujours la même chose, ça dépend de nous et de moi. Au lieu de dire, voilà, Jésus l'a fait. Le prix a été payé. Alléluia. Ça appartient à Dieu. Donc nous pouvons toujours pécher après être sauvés. Mais sache-les bien, frères et sœurs, si tu pèches après être sauvé, tu risques quand même de payer pour cela. Si tu roules trop vite sur l'autoroute, tu risques quand même une amende. Si tu voles quelque chose d'important, si tu voles dans une banque, tu risques la prison. Tu peux pourrir en péché, dans la prison, mais tu seras quand même sauvé. Si, étant chrétien, il a divorce, un homme trouve une autre femme et part avec, tu risques quand même de perdre ta femme et tes enfants. Pour la femme, c'est pareil. Donc, on risque quand même. Ce n'est pas dire on est à l'abri, on sera puni pour ce qu'on a fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on perd son salut. Et ça, c'est nouveau pour certaines personnes. Dieu veut, après tout, Dieu veut que nous devenions de plus en plus comme Jésus, son Fils. Important qu'on le sache. Pour ceux qui ont péché, il y a des gens qui sont, après leur conversion, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu pardonne. Est-ce que tu es prêt pour être pardonné? Il y a des gens qui ne savent pas pardonner. Et si on ne pardonne pas, on devient dur dedans. Tu es toujours sauvé, mais ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon pour le témoignage, ce n'est pas bon pour l'Église. Et c'est accessible, tout le monde peut demander pardon. Et de temps en temps, j'ai vu des gens qui ne veulent pas demander pardon, qui restent. Mais ce n'est pas qu'ils ne sont pas sauvés, mais ils deviennent des chrétiens misérables, durs, sans amour. Et Dieu veut changer tout cela. Donc le rôle de Dieu, on l'a vu, maintenant le rôle de l'homme, important, intéressant. Quel est le rôle de l'homme concernant sa conversion? Première chose, j'espère que vous êtes d'accord, nous sommes sauvés parce que c'est le moment qu'on a mis sa foi en acceptant Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Il y a des gens qui veulent bien avoir Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Il y a un verset intéressant, ce n'est pas toujours bien traduit, c'est Romains 10, verset 9. Si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On peut le traduire aussi, si tu confesses ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Jésus comme sauveur et Seigneur, ces deux choses vont ensemble. Vous me suivez jusque maintenant? Jésus va être notre bon berger. Il est mort sur la croix. Il a dit un jour, juste avant de mourir, il a dit « Tout est accompli. » On avait Anne, c'est nous, hier après-midi, on en a parlé un petit peu ensemble justement sur ça. Juste avant de mourir, Jésus a dit « Tout est accompli. » En anglais, « It is finished. » C'est fini. Et nous avons entendu une fois d'un juif converti que dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs, quand il y avait un souverain sacrificateur, très intéressant, quand il y avait des gens qui venaient avec leurs petites brebis, de petits agneaux, pour être sacrifiés à leur place, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Alors, quand il y avait le dernier agneau qu'ils avaient apporté, et le dernier agneau a été sacrifié, le souverain sacrificateur, il criait très fort, « C'est accompli, c'est fini !» Et quand Jésus était sur la croix, il a dit, c'est accompli, l'agneau de Dieu. Il est le berger, Jésus le berger, il est devenu l'agneau. Mais je trouve que c'est merveilleux. Vous comprenez? Ça, c'est important. Il est l'agneau de Dieu lui-même. Il a dit, c'est fini. Le prix a été payé. C'est-à-dire, il a payé pour moi, pour vous. Mystère, ne me demandez pas de l'expliquer. Jésus a payé pour nous tous. Donc, c'est par la foi, en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, que nous sommes convertis. Deuxième chose. C'est par la foi venant de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Ça va, Rémi? Yes, yes sir, il est toujours là, c'est merveilleux. Éphésiens 2, 8, à prendre par cœur. C'est par la foi que vous êtes sauvés, par la moyenne de la foi. Non, c'est par grâce que vous êtes sauvés par la moyenne de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Intéressant ce verset. C'est par grâce que vous êtes sauvés par la moyenne de la foi. J'ai pensé toujours, c'est seulement le mot grâce. Ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Que la grâce est un don de Dieu. Oui, c'est vrai. À 100%. Mais la foi aussi, c'est un don de Dieu. Parce que nous exerçons la foi tous les jours pratiquement. Pour ceux qui voyagent, quand vous allez prendre le bus, vous croyez que le chauffeur du bus est capable de vous conduire là où vous voulez. Quand vous prenez le train, vous ne voyez même pas le conducteur du train. Mais vous avez foi quand même qu'il y a un conducteur. Et quand on est dans un avion, on ne voit pas toujours le pilote. Mais on a quand même foi. Et j'ai entendu une fois à la télévision qu'il y avait des avions maintenant sans pilote. Et ils ont dit, tout est automatique. Dans cet avion, tout est automatique, c'était le haut-parleur. Tout est automatique, 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 automatique. Et ils sont écrasés. Mais normalement, donc, on a la foi, même dans la vie de chaque jour, on a la foi. Mais d'avoir la foi en ce qu'on ne voit pas du tout de Dieu, ça c'est une autre chose. C'est un don de Dieu. Si vous avez mis un jour votre foi en Dieu, et accepter l'œuvre de Jésus-Christ, c'est un pas de foi. Vous êtes d'accord? Parce qu'on n'a pas vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Peut vivre. C'est une foi encore. D'une autre façon, c'est un don de Dieu. Alors, en disant cela, il y aura peut-être des personnes qui disent, mais si c'est comme ça, John, c'est injuste. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu cette foi. Est-ce que c'est juste ce que j'ai dit? Non. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit cela. C'est donc le troisième. Ça, c'est une chose importante. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée, maintenant, chapitre 2, versets 3 et 4. Dieu veut, cela est beau à regarder devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On ne peut pas dire que Dieu est injuste. Il veut donner la foi à tout le monde parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Vous me suivez jusque maintenant? Donc ça, c'est une chose importante. On ne peut pas dire que Dieu est injuste. La foi aussi, la grâce est un don de Dieu, mais aussi la foi. Il y a une autre chose que je ne dois pas oublier. La foi est une chose très personnelle. Acte 16 maintenant, c'est le verset qui était juste avant. 16 verset 30-31. Il y a deux hommes, trois hommes, quatre hommes. Il y a une prison pleine de gens. Il y a Paul et Silas, ils ont fait du bien, mais on l'a mis en prison. Et pendant qu'ils sont en prison, ils sont en train de se plaindre, pas du tout. Ils chantent les louanges de Dieu, il faut le faire quand même. Et pendant qu'ils chantent, il y avait un tremblement de terre, un changement complet, et puis les prisonniers peuvent partir, mais ils sont restés. Mais celui qui était donc le geôlier, il avait très peur parce qu'il allait perdre sa vie s'il avait des gens qui étaient partis. Et il voit Paul, et il voit Silas, certainement, il a entendu certainement ce qu'ils chantent aussi. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Il les fit sortir, Monsieur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est la troisième chose. Première chose, c'est le rôle de l'homme acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. par la foi, c'est un don de Dieu. Et troisièmement, personnellement, personne ne peut le faire à ta place. Tu ne peux pas faire ça pour tes enfants, pour ta maman, pour ton papa. Il faut le croire personnellement. Ça, c'est la troisième chose. Chaque naissance spirituelle est différente. Comment ? Toi, donc la famille a cru aussi certainement. On ne peut pas croire pour ses enfants, les enfants ne peuvent pas croire. Parce que Paul, selon le verset qui suit, il a annoncé l'évangile à toute la famille. C'est dans le contexte, il annonce l'évangile, et parce qu'il a annoncé l'évangile, les autres l'ont entendu, et certainement, ils étaient d'accord. Tu ne peux pas croire pour tes enfants, ça sera facile. Mais ce n'est pas possible. Chaque naissance spirituelle, pour certains, cela est arrivé à un moment précis, à un certain jour. Pour moi, c'est le 9 novembre 1958, à 21h30. Mais je suis très précis. Hein. Quand j'ai fait connaissance avec Beryl, c'était le 1er septembre 1960, à midi et quart. Dans le centre de Bruxelles. Je sais où, je sais quand, et je sais avec qui. Parce que c'est seulement une vie, je veux bien le savoir. Je suis très prudent avec ce que je fais avec mon temps. Et quand j'ai donné mon cœur à Jésus, ma vie a été changée. Complètement. Il y avait une influence sur toute ma famille. Même sur mes parents. Il faut comprendre, mes chers amis, on n'appartient pas à Dieu par le baptême d'eau. Ce n'est pas un petit peu d'eau ou beaucoup d'eau sur le corps qui change quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on entre dans une alliance. Moi, je suis donc d'origine de l'église réformée en Hollande. Je n'ai jamais entendu dans cette église où il est, église locale, prêcher l'évangile. Parce qu'on n'en a pas besoin. Parce que tout le monde est dans l'alliance. Si les parents sont sauvés, les enfants sont sauvés aussi. Ils sont tous dans l'alliance. C'est merveilleux. Hein? Mais ce n'est pas biblique. On n'est pas sauvés parce que les parents sont sauvés. Et mes parents n'étaient pas sauvés en tout cas. Mais on allait dans l'église protestante et on n'entend jamais l'évangile. Je n'ai jamais entendu qu'on parle de Jésus pour être sauvé. Jamais une fois. Donc on n'est pas sauvé ni par le baptême d'eau, ni par l'alliance. Le baptême d'eau suit après la foi, mais ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Vous êtes d'accord avec moi, jusque maintenant? Parce que ce n'est pas le temps pour être fusillé en ce moment. Donc la foi est toujours une chose personnelle. J'insiste sur ça. Tu ne peux pas croire pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, il y a un autre point, c'est le cinquième point. L'homme peut refuser le don de Dieu. Il peut refuser. Jésus a dit, quand il était à Jérusalem, « J'ai voulu vous rassembler comme une poule, mais vous n'avez pas voulu. » C'est dans les évangiles. Jean 5 maintenant, Rémi, versets 39 et 4. Un jour, Jésus dit, voici ce que je vous offre, mais vous ne voulez pas venir à moi. Jean chapitre 5, verset 39. Si, les deux. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Tout est là. Et vous ne voulez pas venir à moi. Mais ça, c'est grave. Pour ceux qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas. Parce qu'ils pensent qu'ils sont d'accord, qu'ils sont bien comme ils sont, il ne faut pas me déranger. Et nous sommes dans un monde, moi j'ai l'impression que même les gens ne veulent pas, ce n'est pas ça. Il y a une indifférence, le monde autour de nous, sur le plan spirituel, indifférence complète. On s'en fout, je ne dois pas le dire, mais je l'ai dit. Il y a une indifférence en général sur le plan spirituel. Laisse-nous tranquilles. Alors il faut savoir, j'ai mis ça sur ma feuille, il n'y aura personne au ciel contre son gré. handicap. Il n'y aura personne dans le cercle qui dit, moi je ne voulais pas être là, mais je suis là quand même. Personne. J'ai presque terminé. Je crois fermement que chaque chrétien a besoin de connaître quelques versets sur l'assurance de son salut. Ça peut être Jean 3,16, qu'on connaît souvent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. A-I-T. A-H-A-I-T. A-I-T. Mais c'est merveilleux, ça. On peut avoir la vie éternelle en croyant en Jésus. Il y a un verset, même trois ensemble, 1 Jean 5, versets 11, 12 et 13. Là, il y a trois versets ensemble. On appelle ça en anglais un cluster. Trois versets. Et en croyant cela, ça change tout, ça donne une stabilité et ça donne aussi une aide, une force de notre témoignage. 1 Jean 5, versets 11, 12, 13. Et voici ce témoignage. Ça commence comme ça. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, pourquoi? Afin que vous sachiez, pas que vous sentiez, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si vous écrit ces choses, afin que vous sachiez, nous pouvons savoir avoir la vie éternelle. Est-ce que vous êtes convaincus? Pas parce que moi je le dis, mais la Bible dit qu'on peut savoir avoir la vie éternelle. L'important, parce que l'homme dit, on peut avoir des grands orateurs avec beaucoup de baratins, mais ce n'est pas ça qui nous sauve, c'est la parole de Dieu. Et vous avez besoin de connaître par cœur certains versets de la Bible. Ça vous aide dans trois façons. La stabilité spirituelle, parce que nos sentiments changent. Il y a des gens qui basent leur foi sur le sentiment qui change. Et aussi, cela nous aide dans notre témoignage. Quand je témoigne à une personne, souvent j'ai juste un verset ou un autre verset de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas si important ce que je pense, mais ce que Dieu pense. Et il y a bien des chrétiens qui viennent chez moi qui n'ont aucun verset, aucune base pour leur salut. Plus que vous ne pensez. Apprenez par cœur 2 ou 3 versets de la Bible qui parlent justement. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Expérience famille, dans ma famille. Il faut vouloir ou pas vouloir. Dieu m'a donné 2 frères et 1 sœur. Nous sommes une famille de 4 enfants. Je parle d'abord pour mon frère qui était le plus jeune. Il s'appelle Fred. Il était banquier à New York. Il était là quand il avait une de ses tours, ou même 2 tours, de World Trade Center qui sont tombés. Avion dedans. Il était là, il travaillait là. Et puis la poussière qui était partout dans les rues. Il a vu les tours qui tombent. Magnifique tour. Je le sais parce que j'ai été dessus. Beryl et moi, nous avons visité. Nous étions au-dessus de ces tours. On l'a visité. Écrasé. Mon frère Fred, qui travaillait donc dans les banques, il était aisé. Il était donc assez riche. Un jour, donc... Il arrangeait de prendre un bateau pour visiter l'Irlande, la Hollande, Irlande du Nord, Irlande République, Norvège, tout cela. Il me l'a dit ça au téléphone. Et si je voulais aller avec lui, je pouvais aller avec lui, gratuitement. Donc, je l'ai accepté, je suis allé. Il était généreux. Il voulait aller à Paris, dans un hôtel merveilleux. Il m'a invité, je suis allé avec lui. Quand on est rentré chez moi à la maison, Fred et moi, c'était le dernier jour. Il allait partir prendre l'avion pour retourner aux États-Unis. Et je dis, Fred, tu peux avoir tout ce que tu veux. Beaucoup d'argent, tout ce que tu veux. Mais quand tu vas mourir, tu ne peux rien prendre avec toi. Mais quand tu as Jésus dans ton cœur, tout change. Et il s'est mis en colère contre moi énormément. Il dit, arrête, je ne veux pas que tu me parles comme ça. Et c'est la dernière fois qu'on a parlé de Jésus. Une fois au téléphone encore, j'ai essayé. Il ne voulait pas. Personne ne sera au ciel contre son gré. Mon frère Fred est décédé. Il a 5 mois hier. C'est le 11 août. Pourquoi je le sais? Parce que ma mère est née le 10 août. Mon frère est décédé le 11 août. Plus jeune que moi. Il est né en 45. Moi en 36. Donc il avait quand même presque 9 ans, 10 ans de différence. Il ne voulait rien savoir. Je ne veux pas. J'ai un autre frère qui habite encore en Hollande. Tony. Aussi, un bon job. Très aisé. Un jour, il vient nous visiter à la maison, ici en France, à Travonc. Et je parle un petit peu de ce que Dieu peut faire encore aujourd'hui. Il fait des miracles, il fait des guérisons. Et je parle d'une dame qui venait chez nous à la maison, qui avait un problème avec une jambe qui était plus longue que l'autre. Une jambe qui est plus courte que l'autre, on peut dire aussi, mais qui avait mal. Souvent, c'est un problème de vertèbre. Donc, je parle avec lui, et Beryl était là. Je dis à cette dame, elle venait pour son fils, elle ne venait pas pour elle-même. Je dis, vous voulez qu'on va prier pour vous? Et j'ai prié. Et pendant que j'ai prié, Dieu a guéri complètement. J'en parle avec mon frère Tony. Je dis, Dieu guérit. Il dit, moi aussi, le même problème, avec une jambe qui est plus courte que l'autre. Je dis, si tu veux, je prie pour toi. Ah non, il dit, je ne veux pas. Il n'a pas voulu. Parce que s'il avait voulu, il doit quand même admettre qu'il y a Dieu dans le ciel. Il doit admettre que Jésus, au nom de Jésus, tout peut changer. Ils n'ont pas voulu. Même si on donne le témoignage, on ne peut pas forcer quelqu'un d'entrer dans le ciel. Ce que je vous donne ce matin, ça me coûte quelque chose, parce que mon frère Fred, je ne sais pas où il est. On dit toujours le dernier moment, Dieu le sait. Mais ça ne me console pas. Parce qu'il n'a pas voulu, autant que je le sache. Mais tout peut changer. Mon frère Tony, jusque maintenant, il n'a pas voulu. Et pourtant, il est allé dans les réunions. Il était même responsable pour le groupe de jeunes. Mais ça ne veut rien dire. Il voulait même devenir missionnaire. Mais ça ne veut rien dire tout ça. Avec des bonnes intentions... Il y a beaucoup de gens qui vont à l'enfer avec de bonnes intentions. On ne va pas au ciel parce qu'on a de bonnes intentions. On va seulement au ciel grâce à Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Ça change tout. Le contraire avec ma sœur Ellie. J'ai une sœur qui est partie avec mes parents. Mes parents ont quitté la Hollande pour émigrer aux États-Unis pour le dollar tout puissant. Blague, blague, bla, 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 blague. Et puis ils sont partis là. Ma sœur avait sûrement 11 ans, 12 ans. Et quand elle avait 13, 14 ans, elle a été violée aux États-Unis. Elle n'a jamais dit à mes parents. Jamais. Elle avait 38, 39 ans quand. Moi, je suis le frère aîné quand on m'a parlé de ça. En France. Pour la première fois, on m'a parlé. Mes parents ne l'ont jamais su. Mais ma sœur s'est convertie. Ma sœur a suivi l'exemple de son frère. Elle a voulu. Et parce qu'elle a travaillé avec les enfants pour les annoncer l'évangile, elle a fait une découverte, elle a rencontré l'homme de sa vie, un pasteur baptiste, elle s'est mariée avec, ils ont deux enfants, et les deux enfants, deux filles, suivent le Seigneur. Donc le Seigneur m'a consolé. Et quand mes parents étaient aux États-Unis, ils avaient 50 ans passés, ils se sont convertis. Ma mère s'est convertie, donc après moi, ma sœur s'est convertie, et mon frère, mon père et ma mère. Parce qu'ils ont cru pour eux-mêmes. On ne peut pas donner la foi aux parents, mais les parents peuvent quand même écouter leurs enfants. Ils ont vu un changement en moi et ma sœur. Mais j'ai deux frères jusque maintenant. En conclusion, ça va jusque maintenant? Dieu veut bénir tous ses enfants et Dieu veut leur donner l'assurance de salut. Mais l'ennemi de Dieu aussi fait tout pour nous faire douter que Dieu nous aime. Il a fait ça avec nos premiers parents, avec Ève au paradis, suggérant « Dieu n'est pas vraiment bon pour toi. Dieu ne veut pas que tu manges de cet arbre, etc. Dieu n'est pas vraiment bon pour toi. » Et je crois que Satan fait tout pour douter la parole de Dieu. Ce n'est pas les Bibles qui manquent en France, mais de croire dans la Bible. Simplement comme un enfant. ce que j'ai dit ce matin, c'est peut-être assez compliqué pour certains. Mais un enfant peut croire que Jésus-Christ est le bon berger qui s'est donné pour ses brebis. Beryl avait seulement 5 ans quand elle se convertit. Moi, j'avais 21 ans. Ce n'est pas votre âge, mais tout le monde, enfant ou adulte, nous pouvons croire en Jésus. Dieu veut que vous sachiez, sans douter, que vous avez la vie éternelle, vous qui avez mis votre foi en Jésus-Christ. Vous savez, cela vous donnerait la paix, une stabilité, la paix en toutes circonstances. Si nous voulons avoir une vie paisible, donnez votre vie à Dieu. Est-ce que c'est une vie facile? Non. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, mais c'est une vie, on sait où on est, où on va. Alléluia. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Souvent, pendant la nuit, le Seigneur me parle et je médite pendant la nuit. Comment est-ce que je peux méditer pendant la nuit? Parce que j'ai appris par cœur beaucoup de versets de la Bible. Plus que vous connaissez des versets de la Bible, vous pouvez méditer sur ces versets. Et j'ai trouvé, il y a beaucoup de gens, ils ont une Bible à la maison, ils ont lu, mais ils oublient après. Apprenez par cœur des versets importants de la Bible et vous pouvez méditer. En méditant la parole de Dieu, ça entre dans votre cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ça que Dieu veut, ça donne une stabilité. Chers amis, juste dernière phrase. Soyez richement bénis en pratiquant ce que Dieu dit. Il y a une chose que j'ai entendue et c'est juste un petit dicton, hein. Et je ne l'ai jamais oublié. Dieu l'a dit, Jésus l'a fait, moi je le crois et cela me suffit. Dieu l'a dit, Jésus l'a fait, moi je le crois et cela me suffit. Vous pouvez le dire après moi. Dieu l'a dit, Jésus l'a fait, moi je le crois et cela me suffit. Amen, sois béni.